RTL, première radio de France. RTL Euro 2012.
Le club RTL L'équipe.
On refait l'Euro, Eugène Saccomano, jusqu'à minuit sur RTL.
On refait le match tout en suivant, bien sûr, Angleterre-Italie, dont on suit actuellement d'ailleurs la deuxième partie de la prolongation avec Eric Silvestro. Et bien entendu, régulièrement, on l'appellera pour qu'il nous donne des nouvelles. Alors qu'on voit les statistiques là, qui s'affichent sur notre écran, et la supériorité de l'Italie a été manifeste pendant tout le match. Autant dans les passes réussies que dans la possession, c'est assez extraordinaire. Et pourtant, les Anglais ne sont pas battus, loin de là, car ils ont eu eux aussi des occasions. 23h02. D'abord, un petit saut justement vers vous à Kiev, Eric Silvestro, pour nous dire ce qui se passe.
Oui Eugène, toujours 0-0. En effet, on a débuté la deuxième mi-temps de la prolongation. Coup franc très dangereux pour les Italiens. Le public du stade olympique de Kiev qui essaye de pousser les deux équipes pour avoir un but dans ce match très engagé et très intense. C'est Diamanti qui va tirer ce coup franc pour les Italiens. Vous l'avez dit, les Italiens dominateurs, beaucoup plus d'occasions, beaucoup plus de tirs, mais les Anglais se sont aussi montrés dangereux. Balotelli, la tête, non, c'est dégagé par les Anglais. Attention, ça revient sur Pirlo dans la surface de réparation. Il crochette, il essaye de centrer, Pirlo, il arrive à centrer, c'est dégagé par Carole de la tête et c'est dégagé par les Anglais. Finalement, toujours 0-0. On est dans la deuxième mi-temps de la prolongation.
Merci, on se retrouve tout à l'heure, Eric, bien entendu, pour suivre la fin de ce match. Je crois, hélas, qu'on ira vers les tirs au but, mais c'est vrai que c'était un match superbe. Donc ce soir, autour de moi, notre ami Gilles Verdez.
Bonsoir Eugène.
Salut Pascal Pro de RTL et iTélé.
Bonsoir Eugène. Salut. Emballé parce que je vois avec cette Italie-Angleterre.
Avec Hervé Penaud de l'équipe.
Bonsoir Eugène.
Salut Vincent Machonneau de France Football.
Bonsoir Eugène.
Et notre ami Cini de Cyprien Cini de RTL.
Buonasera.
Voilà, buonasera. Alors, on va revenir, bien sûr, on suit, je vous l'ai dit, ce match Italie-Angleterre, mais on va revenir, bien entendu, et sera l'essentiel de l'émission, sur le match d'hier soir. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, par la pelouse, hein, c'est quand même le plus important, et par les choix surprenants de Laurent Blanc. A-t-il commis une erreur en alignant Debuchy ailier droit devant Réveillère? Je crois que oui. S'il avait aligné d'entrée trois attaquants devant, ça aurait peut-être mieux fonctionné, Hervé.
On n'a pas de certitude, c'est ce que ça aurait donné. Ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas fonctionné, avoir mis Debuchy. Au final, c'est une erreur. Bon, on peut le savoir qu'après, mais l'entrée de Menez n'a pas non plus été flamboyante. C'est-à-dire que, encore, il aurait pu donner des regrets au sélectionneur de ne pas l'avoir titularisé, mais enfin, visiblement, il s'en moquait comme sa première
paire. C'est quand même un manque d'audace de sa part, évident, quand même.
Oui. C'est-à-dire qu'il a voulu calquer la méthode croate. Essayant de laisser les Espagnols et de profiter
On a perdu le match avant de le jouer. On a perdu le match avec sa composition quand même. Moi j'aime bien Blanc et je suis pour qu'il poursuive, mais il nous a fait perdre le match.
Il se trompe et tu veux qu'il poursuive.
C'est une équipe agressive, une équipe pour subir. C'est une mauvaise équipe, c'était déséquilibré. On n'a eu aucune chance, on a été nul, on n'a eu aucune action. Franchement, la France a été ridicule.
Ouais, mais on peut pas
Pascal
dire.
Pro.
Écoutez-moi, deux choses. D'abord, j'ai envie de dire, c'est incroyablement loin, finalement, parce que les joueurs sont rentrés aujourd'hui et d'autres eaux ont déjà coulé sous les ponts, d'autres insultes ont fusé. D'autres...
Attends un peu, parle du match, on y viendra. Tu ne veux pas faire toute l'émission là-dessus. Parle-moi du match.
Mais je vous parle du match, je vous dis qu'il me paraît très loin, le match. J'ai le droit, quand même, sans me faire engueuler, de dire cela, Eugène. D'accord. Que votre match, il m'est, pour moi, déjà dépassé, que depuis, les joueurs sont rentrés à Paris, qu'il y a autre chose qui s'est passé. Et qu'effectivement, vous me parlez de la tactique de Laurent Blanc, donc j'ai envie de vous répondre, tout ça me paraît bien loin.
Le match est très loin, mais on restera sur cette impression, et très très longtemps quand même. C'est le dernier match, en plus, ils ont fait à peu près un bon match sur 4. Non, contre l'Ukraine, il faut bien en parler quand même, parce que
c'est quand même ça l'important. C'est que s'ils avaient été bons, même ce qui s'est passé autour, on n'en aurait pas parlé, comme les Portugais, comme les Italiens. Bon, et c'est vrai que c'est vraiment une fausse note. On part sur une fausse note parce qu'on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Alors c'est vrai, ça peut être lié à la composition d'équipe, effectivement, de Laurent Blanc, qui d'entrée dit aux joueurs en quelque sorte, d'abord on ne va pas prendre de risques. Maintenant, je ne sais pas si on avait pris des risques, si on aurait été capable de battre aussi cette équipe espagnole.
On va appeler Eric Silvestro à Kiev.
Toujours 0-0, Eugène, 113e minute. Il en reste 7 dans la prolongation. Les Italiens qui se sont procurés une nouvelle occasion avec un débordement de Balzaretti, le latéral gauche, qui a remis en retrait un centre tendu, repris par Diamanti en première intention, mais c'est passé de bon mètre à côté des buts de Duarte. Les Italiens qui continuent de dominer, qui continuent d'avoir les meilleures occasions et surtout de frapper au but. Mais pour l'instant, ils ne trouvent toujours pas l'ouverture. Attention là, quand même, peut-être le centre de Maggio pour Balotelli. Oh, il se trouve, Gérard, mais Balotelli n'y a pas cru. Du coup, il a raté son contrôle et c'est récupéré par les Anglais. 0-0, encore 6 minutes dans la prolongation.
Le club RTL L'équipe Euro 2012.
Jusqu'à minuit, on refait l'Euro sur RTL.
Eugène Saccomano.
Alors on suivra bien sûr régulièrement le match Italie-Angleterre. Très bon match. Prolongation actuellement. Deuxième période de la prolongation. Et je crois que on arrivera au tir au but entre ces deux équipes, 0-0 toujours. On revient au match d'hier et on était sur... Oui,
alors pardon. On va parler au match d'hier et j'espère que vous allez...
Et le but italien ! Non ! Il est hors jeu ! Il est hors jeu, Nocerino ! Les Italiens avaient marqué avec un débordement côté droit de Diamanti, ah oui, qui avait crocheté son défenseur, qui avait centré au deuxième poteau. Nocerino, qui lui aussi est entré en jeu tout à l'heure, avait placé un coup de tête victorieux. Mais tout de suite, le juge de touche du côté de Diamanti avait levé son drapeau. Je ne sais pas si vous avez ralentis, Eugène.
On a les ralentis, effectivement.
Le but est annulé.
Oui, effectivement, il était hors jeu. Pas de beaucoup, de 50 cm peut-être, mais il était hors jeu. Position de hors jeu.
Si c'est la Balotelli, Balotelli peut marquer alors qu'il n'est pas hors jeu.
Oui.
Donc avant cela, ce que je voulais vous dire, et j'espère que vous serez gentil avec moi cette fois-ci, Eugène, c'est que tous les gens qui ont regardé Angleterre-Italie ce soir n'ont pas pu ne pas penser à la purge de cette Espagne.
Ah oui, non, mais ça c'est évident.
Bien sûr,
ne vous conteste pas.
Une nouvelle fois, les matchs de l'équipe de France en phase finale sont parmi les pires des deux phases finales. Alors que ce soir, on a vu ce qu'on aime, c'est-à-dire de la détermination, de l'engagement.
Vous aviez deux équipes qui avaient
du mouvement, surtout.
Qui avaient envie de jouer.
Désolé, les Français ne bougent pas. Ils bougent pour courir après la balle.
Et c'est vrai que Laurent Blanc s'est renié quand même, parce que Laurent Blanc a été élu, entre guillemets, a été pris sur un projet de jeu. Il nous avait dit on va faire du jeu à l'Espagne. On va jouer offensivement, on va prendre des risques. Ce que j'aime, c'est le beau jeu. Et dès qu'il y a eu des difficultés, il s'est recroquevillé.
Et ça n'a pas été efficace en plus, que le but est venu sur le côté qu'il avait protégé.
C'est un terrible aveu de faiblesse de renoncer à ses potentiels points forts. Le problème, c'est qu'ils sont potentiels avec les Bleus. On n'avait pas, mais on aurait pu essayer. On aurait pu avoir Ménez, l'arbre
potentiel,
Ménez.
Mais Debuchy, les droits, c'est l'inconnu. Hein.
Ouais. Voilà, on a renoncé à nos potentiels points forts pour essayer de contrer un point fort espagnol. Mais les Espagnols nous ont endormis, ils ont porté les stockades. On n'a pas existé du tout. Je suis anéanti.
J'ai peur que le mot faiblesse, finalement, soit assez adapté à Laurent Blanc, que ce soit dans cette composition d'équipe et dans d'autres comportements dont on en reparlera tout à l'heure. Et j'espère qu'on parlera notamment de l'interview que j'ai entendue ce matin. C'est la seule interview de Laurent Blanc post-élimination, celle qu'il a donnée à Téléfoot ce matin. Et il y a là tous les symptômes de la crise.
Exactement.
Du déni.
Mais bon,
ce qui est terrible, c'est que quand on regarde ce match Angleterre-Italie et qu'on voit l'équipe de France aussi, on se rend compte que l'Angleterre, qui a démarré à peu près au même niveau que l'équipe de France, a haussé son niveau de jeu au fur et à mesure de la compétition.
L'Angleterre était très faible au début de la compétition.
L'Angleterre est allée crescendo en haussant son niveau de jeu, même s'ils sont un peu dominés par les Italiens.
Et ils étaient totalement dominés par les Français et les Anglais.
Alors que les Français n'ont jamais réussi à hausser leur niveau de jeu.
Où on est tous de mauvaise foi. Eugène, vous ne pouvez pas dire, pardonnez-moi, que l'Angleterre a complètement été dominée par la France. Ce n'est pas possible.
Sur le premier match, ils ont été largement
dominés. Non, il y a déjà 20 minutes. Le problème, c'est...
Il y avait quelque chose d'illusoire dans la domination française aussi. C'était pas si net que ça, Eugène.
Mais ils ont créé très peu d'occasions, comme
d'habitude.
Le problème de l'équipe de France, et là où la tactique rejoint, l'état d'esprit, c'est que avec les fissures apparues en équipe de France, on n'avait pas la possibilité, dans cette tactique-là, de se sacrifier l'un pour l'autre, de dépasser sa fonction pour le partenaire, puisque cette tactique-là, elle nécessite que vous alliez jusqu'à, entre guillemets, mourir sur le terrain, mettre vos tripes sur le terrain pour l'autre. Or, dans cette équipe où il y avait tant de clivages et de clans, on ne pouvait pas.
C'est pas une certitude, parce que le fait, par exemple, d'avoir
mis.
Contre l'Ukraine, c'est pas son avis signé. Et il n'a pas voulu prendre les risques. À l'époque, je me souviens, après le premier match contre l'Angleterre, j'avais trouvé qu'il avait été trop frileux. Il avait été très bien sur le deuxième match en termes d'impact d'entraîneur. Là, à un moment, les Giroud, il faut pouvoir les utiliser. Valbuena, il est venu pour amuser les autres ou quoi? C'était une mascotte. Alors que Valbuena, on sait que chaque fois qu'il est en équipe de France, il était bon. Donc à un moment, faut aussi
prendre même qu'il y a des matchs importants, même avec l'OM.
Bien entendu,
il a sauvé l'OM à plusieurs reprises, à Dortmund notamment.
Et là, c'est de la faute quand même de Laurent Blanc.
Et là, effectivement,
il craignait, paraît-il, le côté gauche de l'Espagne. Je me demande pourquoi il craignait pas le côté droit d'ailleurs, parce que Silva, pour moi, est presque meilleur. Et même meilleur qu'Iniesta. Bon, il y avait Jordi Alba, effectivement. Mais enfin, s'il a un peu de, je ne dirais pas du jaune, mais simplement d'audace, il met Ménez. Parce que Jordi Alba, s'il sait qu'il a Ménez devant, il ne va pas monter comme un fou. Il ne va jamais monter autant. Bon.
Alors, pardonnez-moi, mais on peut faire refaire les critiques Laurent Blanc.
C'est pas là-dessus. Son mauvais coaching dès le début. Oui.
Bon, je pense d'abord que vous avez plutôt raison, mais c'est pas là-dessus quand même que je l'attaquerai.
C'est sur Angleterre-Italie qu'on va l'attaquer. Voilà. Angleterre-Italie, Eric Silvestro.
La dernière minute de la prolongation, Eugène et messieurs, toujours 0-0. Les Italiens qui essayent. Ils auront tout essayé, les Italiens, jusqu'au bout. Encore un centre de Maggiola. C'est bien couvert par la défense anglaise. C'est dégagé par Duhard. Plus que 30 secondes dans cette prolongation. Et toujours pas de but dans cette rencontre engagée et magnifique. Vous l'avez souligné. 0-0.
Mais les tirs au but, Eric, ne favorisent pas toujours et même souvent jamais.
Ceux qui ont dominé.
Non, souvent, l'Angleterre passe toujours à travers les tirs au but.
Ouais, mais Duhart s'est bien préparé, semble-t-il.
Alors, on va voir. La France aussi
pendant longtemps, l'Italie aussi. Hein.
Parce que ce qui est intéressant sur les phases finales, moi je me souviens par exemple en Italie, l'Angleterre avait déjà perdu contre le Cameroun, je crois. C'était au tir au but. Et depuis 20 ans, régulièrement, quoi. Parfois, en tout cas, l'Angleterre a été sortie au tir au but.
Et voilà, c'est terminé, messieurs. On va disputer la séance de tir au but pour savoir qui de l'Italie ou de l'Angleterre ira défier l'Allemagne en demi-finale. 0-0, une belle rencontre, du rythme, de l'engagement, des actions, des occasions, des tirs au but, mais pas de but entre les deux équipes.
Les meilleurs quarts de finale, hein.
Ah, en termes d'intensité, on s'est régalé. Après, il y a eu des buts.
Et puis, qualité technique, les Italiens, c'est un régal.
Le Portugal, tu l'as oublié déjà. C'était quand même un très bon match.
Bien sûr.
République tchèque, Portugal ?
Oui, bon, j'ai pas aimé. Il y avait la tchèque.
Moi, franchement, Portugal, République tchèque, vraiment, je n'ai pas été fan de ce
niveau plus homogène. Plus homogène, voilà.
C'était moins équilibré.
J'ai écouté avec
le Portugal, il y a eu des buts. Il y a eu le récital Ronaldo.
Moi, j'ai manqué. On a manqué d'un grand joueur réaliste pour moi ce soir. Voilà.
Ben oui, Balotelli a failli quand même. Balotelli a failli.
Alors que Ronaldo n'a pas failli.
C'est quand même plus emballant que le match du Portugal.
Ben oui,
il y a plus d'intensité, ça part dans tous les sens. C'était la
France. Tu n'as pas l'éclair du grand joueur possible.
Oui, pardon, Eric.
J'ai dit plus équilibré parce que l'Angleterre, même si elle a été dominée, dans l'intensité de ce qu'elle a proposé, était au-dessus des Tchèques qui ont quand même subi la majorité du temps.
C'est vrai.
Mais je peux vous dire que les Anglais, ils sont en train de bosser les séances de tir au but. On est allé voir le gardien de Joe Hart. On a dû lui dire lui, il tire à droite, lui, il tire à gauche.
On l'a préparé cette séance côté anglais, on en a beaucoup parlé. Joe Hart s'est entraîné spécialement. Alors après, on en parlait tout à l'heure, hein, quand le stade est plein et que vous avez la pression du moment, c'est pas comme à l'entraînement avec les copains. Donc on verra. En tout
Est-ce
cas, on
que
va
l'Italie
discuter.
A gagné au point ?
Sans doute. Oui.
Au point, oui.
En tout cas, au nombre de tirs, en termes de possession de balles, en termes de construction, oui. Ils ont quand même touché deux fois les montants. Deux fois les poteaux par De Rossi et Damianti. Donc oui, l'Italie a quand même dominé cette rencontre.
En tous les cas, dès que l'UEFA vous propose les statistiques du match, vous nous les fournissez bien sûr, puisqu'on verra la possession d'abord, on verra surtout le nombre de passes et les tirs. Voilà, les trois... les trois points où les Italiens ont largement dominé. Largement. Oui, ils ont largement dominé. On peut le dire.
Extraordinaire de Buffon.
Ah oui, de Buffon.
Extraordinaire.
À bout portant.
Sur Johnson.
Dans la pompe gauche. Mais c'est incroyable. Ouais. C'est un des arrêts de l'Euro. Il est à bout portant.
Mais heureusement que c'est Johnson. Parce que si c'est un attaquant, je pense que là, il a mis un pointu tout de suite.
Difficile à frapper. Difficile à frapper.
Oui, Gilles. Dans cette équipe d'Angleterre, il y a quand même des ressources, une âme, alors qu'on les voyait quand même archi diminuées par des tas d'absences. Et c'est vrai, des blessures, des dissensions internes, un sélectionneur inexpérimenté. Finalement, on a une équipe qui est encore en passe face à une grande Italie de se qualifier pour les demi-finales. Ouais, oui, eux, ils ont eu le supplément d'âme.
Ça y est,
j'ai les statistiques. 64% de possession de balle pour les Italiens, c'est assez conséquent. 35 tirs côté italien, oui, 35.
C'est terrible.
C'est l'Espagne.
Contre 9 seulement pour les Anglais, dont 20 tirs cadrés. Ils ont cadré 20 frappes, les Italiens.
Alors attendez, reprenez tout. Possession
64-36, donc large domination italienne.
Les tirs.
35 tirs à 9 pour les Italiens, là aussi, large domination. 20 tirs cadrés par les Transalpins contre 4 aux Anglais. Donc les statistiques sont à sens unique envers les Italiens. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette grosse occasion de Johnson avec l'arrêt de Buffon. Il y a eu aussi cette tête de Rooney, ce ciseau de Rooney qui aurait pu être dangereux. Mais dans l'ensemble, c'est clair que les Italiens ont dominé cette rencontre. Ils s'en voudront peut-être de ne pas avoir trouvé le chemin défilé malgré ces innombrables tentatives. Et on verra ce que les tirs au but nous réservent. On dit toujours que c'est la loterie. On a deux très bons gardiens en tout cas.
L'Italie va passer parce que c'est l'équipe la plus emballante, je trouve, du tournoi pour le moment avec l'Allemagne.
D'où vient l'Angleterre ? Il y a un côté récit épique qui mérite d'être
proposé. Et les Italiens aussi.
Mais les Italiens aussi, parce que les Italiens partent de loin, si j'ose dire. Ils ont démarré laborieusement, on peut le dire. Et puis petit à petit, c'est monté.
Il y a des joueurs qui ont dû quitter le stage parce qu'ils étaient un peu impliqués dans les fameuses histoires.
Les Anglais, ils étaient blessés.
Qualité de
jeu.
Une
manière de partir. Impliqués, qu'est-ce que vous me racontez ?
Oui, dans le calcio commerce.
En France, mais ils sont pas sérieux. Tout est tranquille à l'Euro, sauf pour l'équipe de France.
Il y a une qualité de jeu en Italie, une qualité technique à l'image de Pirlo. Ce soir, on a vu des gestes techniques. C'est un régal pour ceux qui aiment le football, les Italiens, ce soir.
Alors, tu as la liste là des noms.
Alors, on n'a pas encore la liste, mais par contre, je peux vous dire qu'on va tirer les pénaltys du côté du public que j'ai envie d'appeler ukrainien, parce qu'il n'y a pas vraiment de cop italien, à l'opposé donc des supporters anglais, peut-être par souci de neutralité, on a tiré au sort. Évidemment, on a tiré au sort, et je peux vous dire que c'est Balotelli qui va frapper le premier pénalty côté italien. Alors on en parlait tout à l'heure, sachez que Joe Hart a expliqué à la presse qu'il n'arrêtait jamais un pénalty de Balotelli à l'entraînement, que ça lui arrivait une seule fois.
Il faut signaler aux gens qui nous écoutent, qui ne le savent peut-être pas, qu'il joue dans la même équipe en Angleterre,
à Manchester City, exactement. Et Joe Hart a dit: je n'arrête jamais de pénalty de Balotelli, je l'ai fait une fois à l'entraînement et j'ai couru partout comme un fou tellement j'étais content. On va voir ce que ça donne. Balotelli qui est accrédité d'un bon match.
Attention,
messieurs. Balotelli face à Joao. Balotelli en douceur et c'est dedans. Balotelli qui marque le premier penalty pour les Italiens, bien tiré du plat du pied à ras du poteau. Joao n'a rien pu faire, et à noter que Balotelli est accrédité d'un bon match, même s'il n'a pas marqué. Il a eu des occasions, il a été très sérieux, il n'a fait aucun geste d'humeur, il a joué collectif, et c'est bien qu'il marque ce penalty, parce qu'imaginez les médias italiens s'il n'avait pas marqué ce penalty. C'est bien pour lui.
Alors avantage quand même à l'Italie, parce que statistiquement la première équipe qui commence à tirer des pénaltys, des tirs au but, a un avantage, elle gagne le plus souvent.
Alors Steven Gerrard,
messieurs, face à Buffon, et c'est dedans aussi, la même chose, à ras du poteau, à ras de terre côté droit du gardien, exactement le même que Balotelli. Un partout, c'est Gerrard donc qui donne également. Gerrard qui a eu des crampes à la 70e minute, qui est resté sur la pelouse malgré ses 32 ans. Il a joué toute la prolongation alors qu'il a eu des crampes en fin de match tout à l'heure. Eh bien, il marque son penalty. Allez, le suivant pour l'Italie.
Mais Pascal, quand le deuxième égalise, est-ce que ça donne un avantage pour la deuxième équipe?
Montolivo, le joueur de la Fiorentina. C'est à côté. Il frappe complètement à côté, Montolivo. Et voilà le premier couac de cette séance de tir au but. Montolivo qui n'a pas pris son temps, qui a frappé beaucoup trop vite. Il a posé son ballon. 3 secondes après, il a frappé. C'est à côté des buts de Joe Hart. Et largement même à côté des buts de Joe Hart. il vient être consolé par Nocerino qui vient le chercher, lui taper dans la cuisse. Mais c'est raté, attention, petit avantage pour les Anglais.
Bien sûr.
C'est Wayne Rooney qui va frapper.
Ah, Rooney va marquer, lui.
C'est Wayne Rooney qui va frapper. Oh, le deuxième pénalty. Mal tiré, hein, ce pénalty de Montolivo,
oui,
qui a beaucoup donné dans cette rencontre, qui, à mon avis, n'a pas pris son temps pour tirer ce pénalty. Rooney qui, lui, avec l'expérience désormais qui est la sienne, pose tranquillement son ballon, remonte ses chaussettes, s'essuie légèrement le visage avec la manche de son maillot. Il a les mains sur les hanches.
Il en rate dans le championnat anglais.
Il prend son élan, il frappe et c'est dedans. Parfaitement tiré à contre-pied de Gigi Buffon. Et 2-1 pour les Anglais qui prennent l'avantage avec le mini-break. Et tous les pénaltys ont été frappés du même côté, hein, côté droit du gardien pour l'instant. 2-1 pour les Anglais, donc les Italiens en ont raté un par Montolivo. Gérard et Rooney ont marqué. Et c'est maintenant Pirlo qui va se présenter pour les Italiens. Face à Joe Hart, déjà presque plus le droit à l'erreur, hein, messieurs, bien sûr.
Oui. Il va rater
pour les
Pirlo.
Italiens.
Il va rater
Pirlo. Ah, lui, il a l'expérience, Pirlo. Forcément, il place son ballon. Alors, en plus, l'arbitre lui dit que son ballon est mal placé. Ça, les joueurs en général n'aiment pas trop quand ils doivent repositionner leur ballon. Il prend 4-5 pas d'élan, Pirlo, tranquillement, le plat du pied. Oh, la palenka! La palenka de Pirlo! C'est magnifique! Quel culot, quelle audace du maître à jouer de la Nationale et de la Squadra Azzurra.
De
partout.
C'est incroyable.
Avec la palenka de Pirlo.
Il avait fait ça également.
Elle est magnifique.
Zidane aussi.
Non, formidable. Zidane, oui. En finale de la Coupe du Monde, 2006.
Le ballon va vraiment mourir. Il ne savait pas comment l'appeler, la sienne. C'était le premier à faire.
Ashley Young, messieurs, me semble-t-il. Qui va, ouais, c'est bien lui. Pour l'Angleterre, il y a dedans, il prend beaucoup d'élan. Il frappe en force la barre. La barre. Il est repoussé par la barre. Ce pénalty. Oh là là, à l'image du match, c'est complètement fou. Cette séance de pénalty qui est relancée. Et là aussi, on l'a vu. Il a pris énormément d'élan. Il s'est lancé très très vite et la barre un peu comme, vous vous souvenez,
Di Biagio
évidemment face à la France en 98. Buffon qui serre le poing, qui regarde ses coéquipiers, c'est complètement relancé. Ashley Young d'ailleurs qui a fait un mauvais match.
Young il rate ça, mais c'est pour l'Italie.
J'aime bien les Anglais.
Parlez pas tous en même temps, Eric.
Allez, Nocerino, messieurs, Nocerino qui a fait son entrée en jeu en fin de match, qui a eu une grosse occasion. Nocerino du plat du pied et c'est dedans. L'Italie qui reprend l'avantage, c'est complètement fou. 3-2 pour l'Italie, tiré avec beaucoup de sang-froid par Nocerino qui avait failli marquer juste avant la fin du match. Et 3-2 pour l'Italie.
Ah, quel suspense extraordinaire, hein, vraiment. Avec la domination des Italiens pendant tout le match, bien entendu, beaucoup de supporters italiens à Paris et ailleurs souhaitent une victoire de l'Italie, mais ça se joue pas comme ça sur les tirs au but.
Ashley Cole, le premier gaucher. Face à Buffon, de l'autre côté, les mains sur les hanches, là aussi 4-5 pas d'élan, il y va tranquillement. Ashley Cole, c'est arrêté par Buffon, et voilà, là l'Italie qui va avoir le pénalty de la gagne. L'Italie qui mène 3-2. Ashley Cole, il est mal tiré, ce pénalty, il est pas assez appuyé. Buffon qui se couche et qui exhorte les supporters transalpins, et Diamanti, me semble-t-il, qui va avoir le pénalty de la gagne côté italien.
Il est très bon, Buffon, sur ce coup-là, parce qu'il sait que c'est un gaucher, donc il plonge du bon côté et on évidemment on le voit là, on le revoit sur le ralenti.
On joue la carte fraîcheur côté Prandelli avec Diamanti. Après Diamanti, c'est dedans. L'Italie est en demi-finale. Le penalty de Diamanti. La Squadra Azzurra jouera la demi-finale face à l'Allemagne. C'est mérité sur l'ensemble de la rencontre. Les Italiens qui exultent au terme d'une rencontre passionnante, haletante, du suspense, du spectacle, de l'engagement. Et les Italiens qui ont été menés dans cette séance de tir au but après l'échec de Montolivo, mais qui sont restés soudés et qui sont qualifiés pour les demi-finales. Le sang-froid de Diamanti, le sang-froid de Nocerino, les deux remplaçants, la palenka de Pirlo et l'échec donc d'Ashley Young sur la barre et d'Ashley Cole. Tout le côté gauche anglais aura raté avec une barre et un arrêt de Buffon. L'Italie est en demi-finale de l'Euro, ce sera contre l'Allemagne.
4-2 au total, hein, les tirs au but. 4-2 pour l'Italie qui a fait un match remarquable. Et il aurait été presque indécent, si j'ose dire, n'abusons pas, mais...
Ouais, non, mais non, mais c'est vrai qu'il méritait de se qualifier, mais alors maintenant, il va falloir se farcir l'Allemagne avec deux jours de récupération en moins, et puis un match qui est allé au tir au but. Hein.
Oui. Ce qu'il faut noter sur les quatre demi-finalistes, c'est quand même qu'il y a les trois rois de Italie, Espagne, Allemagne, les rois d'Europe qui sont là, et puis le Portugal qui est une équipe quand même qui aligne les demi-finales. Donc voilà, on a les quatre géants d'Europe qui sont là.
On peut aussi noter que le groupe de l'Espagne-Italie était vraiment le plus relevé, qu'ils peuvent encore se retrouver en finale et que même quand on les voit jouer comme ça, italien, je me demande si la France aurait eu une chance contre eux.
Je pense que la France n'aurait eu aucune chance.
Alors qu'on souhaitait l'Italie. Tu as raison. On tombe sur l'Espagne.
Tu préférais l'Espagne.
Parce que l'Italie.
Avec Debuchy.
Ah oui. Messieurs, juste un petit détail, puisque vous parlez beaucoup de comportement dans l'émission de l'équipe de France, bien sûr les Italiens ont exulté, se sont congratulés, se sont félicités, ont fait une petite danse de la victoire, mais là ils sont en train de traverser tout le terrain pour aller saluer leurs adversaires du soir, les Anglais qui eux étaient allés remercier leurs supporters, et tous les Italiens sont en train d'aller saluer les Anglais. On a vu un grand match ce soir dans le stade olympique de Kiev, et les 22 acteurs, même plus avec les remplaçants et tous les staffs, le savent, et ça va sortir dans une très très bonne ambiance à l'image de cette rencontre où le football aura été grandi ce soir par ce quart de finale entre l'Angleterre et l'Italie. C'est bien l'Italie qui jouera la demi-finale face à l'Allemagne.
Merci Eric Silvestro, vous avez assisté à un match superbe et vous nous l'avez fait vivre avec beaucoup de passion, et c'est très bien. 23h27 sur RTL. Et on va faire une petite pause.
On refait l'Euro. Eugène Saccomano jusqu'à minuit sur RTL.
Le club RTL, l'équipe.
Voilà, donc on continue notre discussion. Cette fois-ci, on va revenir quand même sur l'équipe de France, où on peut parler encore un peu de ce quart de finale Angleterre-Italie avant. Hein. Quoi qu'on a dit, l'essentiel. Bon,
c'est un grand match, il ne rentrera pas dans la légende parce que voilà, il n'y a pas eu une prolongation épique. Il y a eu une séance de tir au but intense, comme elles le sont toutes. Ça a été un grand match, mais il n'a pas
sans
pris
but. Il n'y a pas eu de but.
Il
n'a
pas pris
match.
Cette dimension mythique de quelques-unes des plus belles affiches du genre.
Enfin, non, c'était beau, il y avait du respect entre les joueurs, enfin, il y avait tout ce qu'on aime dans le football.
Il y avait des occasions, beaucoup d'occasions.
Il y avait du mouvement, enfin, c'était beau.
35 tirs italiens, dont 9 cadrés. 35 tirs, dont 20 cadrés, pardon.
Donc, c'est une qualité technique, un engagement. D'abord, ça va vite. Je ne sais pas qui disait tout à l'heure, on a l'impression que la France joue à pied. Là, c'est des joueurs qui vont vite, qui se créent des occasions, une qualité technique. Non, c'était un match formidable. Quand on aime le foot, l'Italie mérite sa place en demi-finale.
Alors qu'on l'a tellement critiqué dans le passé pour son catenage.
Elle joue plus pareil depuis quelques années déjà. Elle joue, c'est tout à fait...
Elle est capable même de changer de système de jeu pendant la compétition.
Ouais. Bah oui, puisqu'au début, elle jouait à trois défenseurs. Mais Prandelli est un très bon entraîneur qui joue aussi en fonction de l'adversaire.
Il leur demande toujours d'attaquer. On les voit dans la surface de réparation. Absolument. Sur les centres, ils sont 3 voire 4. Ce qui n'arrive jamais avec la France.
Et les Italiens contre les Espagnols jouaient plus haut que les Français hier. Rien à voir, même s'ils jouent à 3 derrière.
Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des polémiques liées à la justice avant la compétition, il a un joueur qui est extrêmement difficile à gérer, qui est Balotelli.
Il y en a deux. Mais Cassano aussi.
Oui, mais Balotelli, c'est presque les frasques. Quand on compare avec la manière dont ont été gérés des joueurs complexes en équipe de France, c'est le jour et la nuit. Balotelli, il est titulaire, il fait un bon match, il marque pas, il marque son tir au but. Il est presque exemplaire sur ce match-là.
Oui, mais il se fait allumer terriblement, ce qui est dommage.
Par les médias,
par les médias, c'est terrible.
Ouais, mais il n'allume pas les médias en retour.
C'est ça qui est intéressant, justement.
Comment tu fous?
Non, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de drame en Italie.
Sur le terrain, dans un quart de finale, il est comme un joueur normal. C'est ça qui est intéressant.
Mais quand il a envie d'allumer la presse, il a un copain à lui qui vient lui mettre la main sur la bouche. Alors qu'en France, quand il y en a un qui a envie d'allumer la presse, il dit vas-y, balance.
Là, c'est parce qu'il s'est retrouvé près de lui.
Faut quand même nuancer sa performance de ce soir, parce que je suis sûr qu'il y aura débat.
Ah, il a mangé.
Voilà.
Il a vendangé.
Voilà, il a quand même. Il s'est créé des occasions.
Mais un 6.
Je veux dire, à ce niveau-là, tu attends qu'il les transforme.
Non, mais surtout, moi, on parle toujours d'un génie avec Balotelli, et je ne vois pas encore le génie. C'est-à-dire que ce soir, il fait un match intéressant.
Sur son retourné, il y a quelque chose de génial
Il a du talent. On lui enlève pas le talent qu'il peut avoir, mais parfois, il manque un peu de justesse dans les derniers gestes.
Et même dans le pied, il n'a pas un pied extraordinaire.
Mais ce qui est extraordinaire dans cette équipe d'Italie, et ce n'est pas nouveau, c'est le comportement et l'importance du jeu de Pirlo.
Ah oui.
Parce que ça, Pirlo non seulement joue merveilleusement au foot, mais en plus, il dirige bien, sans un mot en plus, hein, sans un mot. C'est-à-dire que ça se fait naturellement.
C'est, puis c'est pas le seul, parce qu'à côté, Montolivo, De Rossi, ça a vraiment bien joué au ballon aussi.
Et oui,
c'est très très...
Mais ça, c'est la spécificité italienne. C'est des gens qui savent faire un contrôle, qui ont une culture individuelle de footballeur tout à fait exceptionnelle.
Je savais, aussi, pour la technique, moi j'ai des souvenirs formidables de Trapattoni, du temps où Platini jouait en Italie, à la Juve. J'ai assisté à plusieurs séances d'entraînement et c'est vrai que les bases, c'est un peu comme au rugby, les fondamentaux, les bases, c'est-à-dire la jongle, les contrôles et tout ça, se pratiquent à chaque entraînement. Mmh. On passe une demi-heure sur les gestes techniques, comme les contrôles, la jongle, les dribbles. C'est vrai, c'est extraordinaire.
Oui, je pense que les joueurs français aussi sont aussi bien outillés au plan technique que les autres.
Hein. Oui,
c'est pas là que se fait la différence.
Mais pour revenir sur les comportements, parce que prendre Delhi, quand il prend Cassano et Balotelli dans le même groupe pour partir trois semaines en Ukraine, on se dit qu'il est fou.
Il se fait allumer.
Ils sont ingérables les deux et donc ça se passe plutôt bien et je pense que Prandelli les maîtrise, mais il n'y a pas que Prandelli, c'est-à-dire qu'il a des relais sur le terrain comme Pirlo, comme De Rossi, qui sont des joueurs de caractère respectés par ces jeunes-là et donc du coup il y a une certaine osmose et ça se passe bien.
Mais Cassano a quand même eu des réflexions durant l'Euro sur des conférences de presse un peu
non mais qui n'ont rien à voir avec le football, juste parce qu'il lui manque une case et qu'il est cinglé. Non,
mais il a un rôle de bouffon aussi qui est essentiel,
bouffon aussi, j'ai oublié,
parce que il a le brassard, il est le relais. Et il est décisif sur le match où il faut être décisif.
Il y a des vrais grands frères.
Exactement. Et il est, là encore, bon, il a toujours été un des meilleurs gardiens du monde, mais là, peut-être qu'il est en train de le redevenir. Il fait un arrêt décisif dans le match. Après, il est décisif dans les tirs au but. C'est quand même une très grande performance.
Non, mais attendez, là, j'ai l'impression qu'on dévie quand même. C'est quand même pas ça qui a fait que l'équipe de France a été battue.
Si. Il n'y a pas leader sur le terrain.
Ah non, je parlais pas de ça.
Il n'y a pas de chef. Non, mais quand on parle d'un Pirlo, il n'y a pas de vrai joueur qui impose sa personnalité. Il n'y en a pas un qui impose sa personnalité.
Le problème, c'est que tu as un manque de qualité individuelle.
Voilà la raison. Et de leadership, Hervé. Et de leadership.
Mais il n'y a personne pour canaliser le talent de ces jeunes joueurs qu'on nous vend depuis des années.
Mais il n'y a pas de grands joueurs. Il n'y a pas de grands joueurs.
Sauf peut-être Benzema quand il est au Real de Madrid.
Quand il est le grand joueur en Italie aujourd'hui, Eugène ?
Pirlo.
C'est un grand joueur.
Et Balotelli aussi.
Donc Balotelli est plus fort que Benzema.
Je ne suis pas sûr.
Non, mais moi ça m'intéresse. Balotelli est plus fort ? Non. D'accord. Quel est le grand joueur ?
Pirlo.
D'accord.
Oui, on n'a pas de Pirlo,
il n'a pas de catégorie que Loris.
Ah bah oui.
Sur le tournoi.
Non.
Loris, regarde ce qu'il fait en quart, il est décisif.
Mais pareil, ils sont pareils.
Soyons un peu objectifs et pas chauvins.
Mais il n'y a pas Cristiano.
Dans l'Italie, depuis 4-5 ans, on disait en France, Loris, meilleur gardien du monde, non. Il y en a 10 devant lui, peut-être pas 10, mais
sur le tournoi. Ce que je veux vous dire, c'est que je veux bien que vous me disiez que Pirlo soit un grand joueur.
Ah oui.
C'est un excellent joueur, Pascal. C'est entendu. Mais ce n'est pas que je sache ni Cristiano Ronaldo, ni Messi. Bah,
je rejoins Pascal en qualité individuelle. L'Italie n'est pas plus forte que la France. Mais collectivement, ils sont beaucoup plus forts que nous. Et le foot, c'est un sport collectif.
Je vous l'accorde. Il n'y a pas de Pirlo en France. Je vous l'accorde.
Défensivement, les Italiens sont beaucoup plus forts que les Français.
Collectivement, pas individuellement.
Même individuellement. Quand vous avez la défense de la Juve qui n'a pas perdu un match de l'année, c'est autre chose que les défenseurs qu'on a. Mais oui, pas Chiellini ce soir, sur l'ensemble du tournoi. Sur l'ensemble du tournoi. Et là, vous retrouvez quelle équipe ?
Parce qu'ils jouent ensemble.
Avec Mexès qui avance à 1 km/h, qui n'est même pas titulaire en Italie. Rami qui a fini une saison cramé bouilli sur les jantes. Et après, à gauche, vous aviez Evra qui a aussi fini cramé. On l'a changé, heureusement.
Mais c'est là d'ailleurs qu'on pourrait mettre en cause les choix de Laurent Blanc, qui a écarté Koscielny, qui ne le fait rentrer qu'au dernier match. Alors que ça a été le meilleur arrière central, c'est Koscielny, celui que j'ai vu, et qui n'a pas emmené Mapu, Yanga, Mbiwa.
Oui, mais enfin, moi, à la rigueur,
il a raison, c'est une grande erreur.
Non, mais qu'il ne fasse pas jouer plus tôt Koscielny, là, je suis d'accord. Il aurait dû s'apercevoir très rapidement que Mexès était insuffisant sur les matchs qu'il a fait, et qu'à l'entraînement, Koscielny, tout le monde le disait, était remarquable. Donc, c'est vrai qu'il aurait dû aligner Koscielny.
Et donc là, ce n'est pas une histoire de leader ou pas leader. Leader, c'est bien d'avoir des leaders, mais il y a des équipes qui n'ont pas de vrais leaders. Moi, j'ai connu même Lyon les premières années où il n'y avait pas de quelqu'un qui était dans le vestiaire, qui s'imposait comme la personne, je ne sais pas, la lumière de l'équipe.
Juninho s'est assez vite imposé.
Puisqu'on y revient, l'équipe de France, puisqu'on y revient, elle est sans personnalité dans les deux sens du terme. Sans personnalité au pluriel et sans personnalité au singulier. Donc, ça fait une équipe, effectivement, molle.
Ouais. C'est un chewing-gum. Très belle formule.
Ouais, c'est beau.
Et elle était molle, oui.
C'est un chewing-gum.
Vous disiez que Pirlo n'est pas un grand joueur, ça m'a anéanti.
Non, mais vous avez raison.
Anéanti. Non, mais là, un Gilles,
vous avez raison.
Pirlo, Eugène. Mais on dit que Pirlo est pas bon, ça m'a scotché.
C'est un ballon d'or en puissance.
Pirlo,
un ballon d'or.
Vous le regardez jouer, Pirlo, c'est de l'or dans les pieds.
Pirlo, c'est meilleur que Baresi ou que le père et le fils, là.
Maldini,
c'est pas le même poste.
Il m'impressionne parce qu'il joue en marchant en plus.
Il rend les autres magnifiques.
Il faut rappeler donc que Milan n'en voulait plus et qu'il est parti à la Juve pour presque rien et que c'est la Juve qui l'a
rendu. Évidemment que c'est un bon joueur, évidemment que tout ce que vous dites est juste.
Bon joueur, c'est.
Mais pardon, pas tous en même temps. Vas-y, termine.
C'est pas Cristiano Ronaldo, c'est tout ce qu'on a dit. Il n'est pas aussi décisif.
Il bonifie les autres.
Oui, je suis d'accord.
Non, mais il fait moins le malin que Cristiano Ronaldo, mais sur le terrain, je veux dire, j'aime autant avoir appris le plus vieux.
C'est l'équivalent d'Iniesta après sur ce
terrain. Cristiano Ronaldo qui est un Pirlo.
Parce qu'il est plus vieux.
C'est peut-être aussi la qualité de prendre des lits, d'avoir réussi à trouver une osmose entre tous ces joueurs.
Mais parce qu'il y a une âme dans cette équipe italienne.
Ils entendent bien, ça se voit.
Il y a une âme. Contrairement à l'équipe de France.
Si l'équipe de France avait gagné ses premiers matchs, ils s'embrasseraient tous sur la bouche.
Arrêtez avec vos si, puisque c'est parce qu'il n'y a pas d'âme qu'elle ne les a pas gagnés.
Bah, alors ça, c'est un peu donc, la poule et l'œuf. C'est bah, qui est l'origine. Bah oui, c'est
qu'on s'est gagné tous ces matchs.
Les matchs de préparation, ça s'était bien passé. Après l'Allemagne, ils m'ont dit, ça y est, on a trouvé une équipe, ils sont bien. Les matchs avant l'Euro,
ils
pareil.
Ils battent le Brésil, les Anglais, les Allemands.
Mais ils changent. Oui, mais que fait Laurent Blanc? C'est qu'il change aussi un peu, je dis pas son équipe, mais enfin, t'avais Valbuena en Allemagne qui fait un très bon match. Lui qui a un très bon état d'esprit pour le
coup. Donc on en revient à Laurent Blanc.
Non mais
exactement.
Oui, au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a quand même une curiosité. Après ce tournoi, qui n'arrive pas, parce que je me suis amusé à regarder les retours des autres équipes, c'est qu'ils reviennent au Bourget, attendus sous le déluge par 100 supporters.
40.
Il y en a deux qui s'arrêtent. Villa sympa, Diarra, il y a Blanco Vlahovic. Ils ne s'arrêtent pas voir les gens, ils ne saluent pas les gens.
Là, c'est un miracle, c'est quand même.
Il y a un éloignement qui se crée entre eux et nous, le grand public, qui fait mal. Parce que ça montre que, ils sont pas à la hauteur des attentes. Ils se moquent un peu
Gilles,
des gens. Donc ça,
nous
ça fait
avons
mal.
À 10 mètres de ce studio de jeunes journalistes qui étaient au Bourget tout à l'heure. Des jeunes journalistes d'RTL qui n'avaient pas de mots assez durs sur l'accueil de l'équipe de France, sur la manière dont ils ont traité leurs supporters. Aucun regard,
ils
sauf
Emile. Ils n'ont pas traité leurs supporters, ils n'ont pas maltraité. Ils n'ont pas
ignoré qu'on les fasse venir dans ce studio.
Mais non, j'étais avec vous quand on l'a
fait. Ils n'avaient pas de mots assez durs. C'est une honte.
Sur l'arrivée des Bleus cet après-midi, c'est indéfendable.
C'est indéfendable.
Je veux bien qu'on dise plein de trucs sur Nasri, etc., mais là, c'est indéfendable.
C'était la même chose il y a deux ans.
Mais attendez, ce que je voudrais dire, j'ai connu la grande équipe France partant en 2002, parce que je faisais le papier d'ambiance pour l'équipe quand ils partent
on s'en souvient de ce papier d'ailleurs.
Ah, c'est un très bon papier.
Ton meilleur papier.
Et à l'époque, toutes les stars que vous connaissez, il y avait plein de supporters et ils s'en moquaient éperdument. Et je peux vous dire que même quand ils sont passés derrière les scanners,
les portiques,
voilà. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils ont dit, allez, on est tranquille, mais t'es enfin débarrassé.
Non, moi, j'ai pas ce souvenir-là du tout. J'ai
dans les aérogares, des escales,
exactement,
Ils sont tous pareils, on va pas vous raconter. Du temps de Zidane, c'était pareil. Ce n'est pas bien,
parce que toute votre attitude qui consiste à dire tout le monde est pareil, etc., pour excuser les joueurs d'aujourd'hui, moi, je ne vous suis pas. J'ai suivi Zidane, j'ai suivi Didier Deschamps, ils allaient vers les supporters, ils allaient les signer, ils avaient un amour, je l'ai vu, et c'est trop facile de dire que il y a aujourd'hui une nouvelle génération qui ne se conduit pas très bien.
Est-ce que tu étais à Berlin pour la finale? Non, moi j'y étais
à Berlin.
Bien sûr. Et non seulement est-ce que tu as vu l'attitude des joueurs français à la fin? On n'a pas vu de joueurs français parce que Zidane a donné le coup de tête, ils sont rentrés.
Bon, alors il y a eu des mondes dans le il n'y a pas de problème de comportement dans l'équipe de France.
Tout le monde est presque pareil.
D'accord.
Tout le monde. Enfin, mais selon moi.
Oui, selon.
Mais l'attitude, parce que là par contre, là, je vais rejoindre tout le monde. C'est l'attitude cet après-midi. Ça me paraît incroyable. Alors qu'en plus, tout avait été fait. Rappelez-vous la banderole déroulée lors du dernier match amical. On vous aime tous. On s'adore. Vous êtes géniaux. Ouais. Et là, ils arrivent. Et 40 personnes ou 45 personnes avec des enfants. Ils ont attendu sous la pluie. Et il n'y a pas une personne pour s'arrêter.
Il y avait les avions taxis qui attendaient.
Il y avait les taxis qui attendaient.
Je vous assure.
On l'a vu sur les marges.
Les avions taxis. des avions, taxi Villa est allé très gentiment.
Mais combien sont sortis? Combien sont sortis? Parce que certains ne sont pas venus par Paris. Attention,
Mvilla est allé très gentiment. C'est le minimum. Par exemple, les Suédois.
Mais combien de joueurs sont arrivés? Je voudrais savoir combien de joueurs. Parce qu'il y en a beaucoup.
23.
Non. Il y en a beaucoup. Je crois qu'ils repartaient déjà de Donetsk, qui avait déjà prévu.
Est-ce que vous êtes sûr de cette information?
Ah ben c'est ce que j'ai entendu à la radio.
Parce que là encore, tous ensemble, ça montre d'ailleurs toute la faiblesse.
Et c'est un avion privé affrété par les FFF.
Pas en même temps, bon sang.
Je comprends pas Noël Le Graët, qui est un homme de pouvoir, qui est un homme dur, qu'il tolère ce genre de choses. Tu dois rentrer à 23.
Il s'est légèrement adouci quand même. Oui, quand on écoute ses déclarations, on est quart de finale, c'est pas mal, on va réfléchir. Moi, je trouve que pour un président qui a de la poigne, j'aurais bien... Enfin, je sais pas, j'aurais souhaité qu'il tape sur la table, qu'il dénonce certains comportements. Il l'a pas fait. Il est comme, il rentre un peu dans le rang. Les autres.
La fermeté de Noël Le Graët s'est envolée dans les brumes ukrainiennes et polonaises. Voilà, il essaye maintenant de faire de la politique, de voir comment il va pouvoir discuter avec Blanc.
Il voit qu'il
sans
est
doute
mal.
Le garder. Il voit qu'il est mal.
Il voit qu'il est très mal.
Il voit qu'il n'a pas plus de rapport avec certains jeunes joueurs complexes et au caractère très fort, pour ne pas dire caractériel. Et donc il est voilà. Et puis, je suis d'accord avec toi, Vincent. Il est légèrement débordé par les événements.
Et on voit que dans le jeu, on n'a pas progressé. On est revenu comme il y a deux ans. Et dans deux ans, il y a la Coupe du Monde. Dans quatre ans, il y a un euro en France. Mais vous vous rendez compte un peu le chantier, mais c'est terrible. Et on a même régressé.
Et il n'y a pas tellement d'avenir pour la plupart des joueurs qu'on a vus.
Si, on a régressé.
Il y a des joueurs qui ne sont pas très bons. En revanche, il y a une chose sur laquelle je veux insister, c'est pas un problème générationnel. Parce qu'à l'intérieur, je m'explique, à l'intérieur de cette fameuse génération 87,
dans le même âge,
voilà, on parle de quatre joueurs. Pourquoi on parle de ces quatre joueurs-là? C'était les stars d'une époque, quand ils avaient 12-13 ans. Donc ils étaient choyés, couvés, et ils se sont permis un peu tout ce qu'ils voulaient. Alors que vous avez dans cette même équipe des joueurs de la même génération qui sont à un an près. Loris, Debuchy, Cabaye, qui sont pareils, ils ont le même âge. Eh ben, ils font pas partie. Eux, vous les considérez pas comme la génération 87, ils sont de 86.
Alors, les joueurs qui tirent on va pas dire qu'ils tirent les épingles du jeu, mais les joueurs qui ont eu un comportement sur le terrain et en dehors du terrain bien, c'est Loris, c'est Koscielny, c'est Cabaye,
et Ribéry.
Clichy a été monté en puissance.
Non, pas sur 23. Il n'y en a pas 23 qui étaient là.
Non, mais pour revenir sur ce que disait Hervé, évidemment qu'il ne faut pas accabler les joueurs. Mais on est
Non, c'est pas ce que j'ai dit.
Il n'y a pas que les joueurs. Mais vous conviendrez que. Vous conviendrez que l'encadrement. Laurent Blanc s'est exprimé ce matin, c'est la seule interview qu'il a faite après l'élimination hier soir. On lui pose la question, Nasri, que dit-il? Ça ne me regarde pas, c'est un problème personnel entre Nasri et le journaliste.
Je m'en lave les mains.
Voilà. Deuxième question du journaliste, qui revient sur le même thème, qui sent bien quand même que la position de Laurent Blanc n'est pas tenable, et il redit, ça ne me regarde pas, c'est un problème personnel entre le journaliste et Samir Nasri.
C'est ce qu'il avait déjà dit.
Tu es sélectionneur... Et que tu réponds cela, que tu ne prends pas en compte que c'est le joueur de la sélection, que c'est un message qui est transmis à tout le public français. Mmh. Il me semble que tu faillis à ta tâche.
Je pense que Blanc, il a été un petit peu sonné par ce qui s'est passé pendant cet euro. Il avait l'air abattu et sonné, et même surpris. Parce qu'a priori, quand vous avez des jeunes joueurs en face de vous, que vous êtes Laurent Blanc, que vous êtes champion du monde, que vous avez à peu près tout gagné, vous attendez en retour un petit peu de respect. Vous pensez que quand vous allez dire un truc, et bien vous allez être écouté. C'est peut-être ce qui s'est passé d'ailleurs jusqu'à l'Euro, pendant les 23 matchs sans défaite, etc. Parce qu'ils avaient tous envie d'y aller à l'Euro, pour des raisons qui, à mon avis, sont plus d'ordre contrat. Et... Bref, voilà.
Mais ils le respectent tous, puisque tous souhaitent qu'il continue.
À l'Euro, il s'est quand même fait envoyer bouler par Ben Arfa. Mais c'est surtout ça le problème.
Voilà. Le vrai problème.
Donc, c'est-à-dire
qu'en
gros, ces joueurs-là, quand Blanc leur dit un truc, champion du monde, etc., ils s'en foutent. Et Blanc, je pense qu'il s'y attendait pas.
Je suis pas sûr qu'il ait très envie de continuer d'ailleurs. Je pense qu'après une semaine de repos, ça va aller mieux. Mais là, les sirènes de Tottenham commencent vraiment.
Je suis pas sûr que Noël ait envie de le faire continuer non plus.
Il y a une forme de faiblesse qu'on a découvert dans le management de Laurent Blanc. On l'a dit ici après l'incident de Nasri contre l'Angleterre, où je vous avais dit à ce même micro, il fallait le remettre dans l'avion. Et vous me disiez non, la sanction était trop forte. A posteriori, je pense que ça a été un des problèmes importants de cette équipe de France. Et on a découvert la faiblesse de Laurent Blanc, qui ne veut pas trancher.
Qui ne veut pas trancher. Mais...
RTL Euro 2012.
Entrée dans le club RTL L'Équipe.
On refait l'Euro, Eugène Saccomano.
Oui, avec Verdez, Penaud, qui demande la parole et qui va la reprendre. Sini, Machno et Pro. Alors,
oui, Bruno. Moi, il y a une chose qui s'est passée dans le vestiaire, parce que Nasri, c'est un cas un peu particulier. Mais l'histoire Ben Arfa, à partir de moment où il se fait envoyer baladé par Ben Arfa, là il faut sévir, parce que là c'est l'entraîneur qui est pris à partie par un de ses joueurs dans un vestiaire. Là il faut lui dire, eh ben tu pars, si on va finir à 22 c'est terminé. C'est pas tout à fait pareil que les engueulades entre joueurs dans un vestiaire, ça fait partie
je pense que tout ça Blanc il s'y attendait pas. Et quand moi je suis désolé,
quand Pascal dit qu'il a les vestiaires qu'il a fait en 30 ans,
mais justement quand Pascal dit il a pas voulu choisir, moi je pense qu'au contraire il s'est dit je choisis le talent. Et au risque de me planter, parce que moi, je suis champion du monde, parce que mon aura va me permettre.
Mais va jusqu'au bout, alors Cyprien, choisis le talent en quart de finale contre l'Espagne, mais pas Debuchy, mais Benes.
Ce talent lui a déjà échappé. En quart de finale, c'est déjà trop tard. Le talent lui a déjà échappé. Il s'est rendu compte qu'il maîtrisait plus ses garçons.
Il était perdu, comme il a été perdu les 6 derniers mois à Bordeaux. Tout le monde l'a oublié. Et là, on a vu que c'est pas un entraîneur qui avait la poigne d'une autorité vraiment naturelle. Tout est parti à volo à Bordeaux. Pourquoi ça se passe pas comme ça l'équipe de France?
Ok, bon, moi, je suis pour que Blanc continue, donc je l'accable moins que mes collègues. Je dirais simplement que il y a un problème, là je suis pas d'accord avec Hervé, il y a un problème de joueurs et d'hommes. Ce sont des joueurs et des hommes qui sont hyper complexes, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, venant de milieux d'ailleurs...
Non. Ça, je te le dément.
J'ai même pas terminé ma phrase.
Non mais ben, parce que dire... je sais ce que
non,
tu vas dire.
J'allais dire venant de milieux défavorisés ou non. Vous voyez ?
Pardon ?
Défavorisés ou non.
Non.
Il y a un... Les deux, il y a un problème d'éducation, il y a un problème de respect à l'autorité, à l'ancien, que ces joueurs reflètent. Et il y a beaucoup de gens dans la rue, moi, qui me disent...
Alors,
il y en
les
a
trois,
marre, ces
mon cher
Verdès,
je vous rappelle, je vous l'ai déjà dit, mais que les trois joueurs concernés, enfin, j'imagine que vous pensez à Nasri, à Ben Arfa et à Benzema. Ben, je vous signale que ces trois joueurs n'ont jamais connu la banlieue.
J'ai dit milieu défavorisé ou non, Eugène, justement, pour m'exonérer de votre reproche que j'attendais.
C'est peut-être les ballons, c'est la banlieue.
C'est peut-être les ballons, c'est pas Marseille, c'est pas la banlieue.
Eh ben si, justement, bah c'est la banlieue de Marseille, c'est peut-être les ballons.
Non, mais je trouve
qu'il
y a un village, c'est peut-être, tu connais.
C'est un village, oui, je connais.
C'est un village. Et il n'habitait pas dans une tour.
Ah voilà, bah oui, mais il y a des tours et c'est la banlieue de Marseille.
On a l'impression que ces joueurs ne sont plus transcendés par le maillot de l'équipe de France.
Mais
et ça fait mal aux gens.
Mais moi, j'ai l'impression que les consignes que leur donne l'entraîneur ne les transcende pas. On pourrait parler de ça.
Mais n'oubliez pas.
L'équipe de France est sans doute l'équipe qui bouge la moins sur le terrain. Moi, ça me rappelle la réflexion à la fin des matchs de Ligue 1, on est bien en place. Les Français sont bien en place, ils n'en bougent pas. Regardez, on engueule Benzema parce qu'il dézone, mais c'est le béaba du football de dézoner. Pourvu que comme Kaba l'a fait une fois, prenne sa place. Mais non, ça, on ne sait pas le faire.
Vincent, qui ne rate pas beaucoup de matchs espagnols, je pense qu'il ne dira pas le contraire. Moi, je suis désolé, le Benzema que j'ai vu hier, c'est pas le même pressing qu'il fait avec le Real Madrid quand il joue contre le Barça.
Mais il est transcendé par le match du Real, peut-être.
Ben oui,
attendez.
Il a Ozil à droite, Cristiano Ronaldo à gauche.
Il est là pour faire le pressing.
Pour
faire le pressing, il n'a pas besoin d'avoir Ozil ou Di Maria. Il faut courir pour aller sur le ballon pour faire le pressing.
Moi, je trouvais qu'il bossait quand même pas mal, le Benzema.
Hier, j'ai trouvé que moins quand il joue contre le Barça.
Sa fin de match,
non, mais pour revenir à ce que disait Gilles, là où je suis tout à fait d'accord, c'est qu'on parle d'une même génération. Comme s'ils étaient tous pareils. Moi, je pense que ceux dont on parle aujourd'hui et qui posent visiblement le plus de problèmes, c'est ceux qu'on a choyés jeunes. C'est-à-dire qu'on ne les a jamais critiqués. Donc, c'est pour cette raison qu'eux, ils ont ces réactions-là. Parce qu'en fait, c'est le système fédéral ou amical dans le côté tous les amis, le club, tous les agents, etc., qui les pouponnent. Pourquoi ? Parce que c'est l'argent qui rentre aussi. Alors à un moment, on n'ose rien leur dire.
Les infos vont commencer à filtrer. On commence à dire que Laurent Blanc a eu peur de ses joueurs. Il a eu peur de... Quand on parle de faiblesse, on en est là.
Ah bah alors là, c'est Laurent Blanc, là, c'est plus les joueurs.
Bien sûr, parce que c'est... D'abord, je ne sais pas.
Mais alors, physiquement ?
Mais c'est des joueurs qui sont ingérables. Ouais. Certains.
Et là, prenez la génération. Mais pourquoi 87. Il en prend deux?
Mais parce qu'il est persuadé qu'il va pouvoir les gérer, moi, je pense.
Moi, j'ai un peu travaillé sur cette génération 87 et tous les entraîneurs qui ont connu cette génération à Clairefontaine, ils les ont virés. Smeriki, parlez avec Smeriki, parlez avec Bergerot, parlez avec Domenech, parlez avec tous les entraîneurs qui ont eu cette génération 87.
Ils ont viré, ils sont champions d'Europe. Bizarre, quand même.
Mais parce qu'ils ont du talent, Eugène, ça n'a pas de rapport.
Mais alors. C'est l'essentiel quand même
en
matière de football.
Mais non, ce n'est pas l'essentiel, Eugène. Pardonnez-moi. Si vous pensez que l'essentiel, c'est les résultats, c'est tout notre débat où nous ne sommes absolument pas d'accord.
S'ils sont champions du monde, il n'y a pas de problème de l'équipe de France.
Ils ne le sont pas.
Champions
d'Europe.
Mais est-ce que Nasri a des problèmes à Manchester City? Non. il n'a pas de problème à Manchester City.
C'est un joueur anonyme. C'est-à-dire voilà. Que tous, tous commencent à dire aujourd'hui que par rapport à leur talent, ils n'ont exploité que 50% de leur talent, parce que c'est une génération extrêmement talenteuse, mais qui soit ne travaille pas, soit a un comportement sur lequel on peut revenir, etc. Donc tous les entraîneurs, moi je pense à Bergerot notamment, je pense à ce que dit Spericchi en coulisses sur ces jeunes gens. Ils n'en peuvent plus, personne n'a trouvé la solution. Donc qu'on les prenne plus.
Ben
Arfa est passé par Lyon, il s'est fait virer. Il est passé par Marseille, il s'est fait virer. Il est aujourd'hui à Newcastle et il va en équipe de France et il remet.
Mais moi je disais avant qu'il fallait pas le prendre, tout le monde disait il faut le prendre.
Moi j'ai toujours dit entre Ménez et Ben Arfa, autant en prendre qu'un.
Non mais moi dans la liste. Voilà, d'accord. Ménez qui s'est permis, d'ailleurs, il a été bête de faire ça, mais enfin je sais pas s'il est très intelligent. C'est rien, mais bonsoir, hier, quand l'arbitre va le sanctionner, le sanctionne d'ailleurs pour un simple coup franc, hein, il n'a pas la main à la poche pour le carton, l'arbitre, il lui dit « va fanculo ».
Et il lui dit en italien pour être sûr qu'il comprenne bien, parce que s'il lui a dit en français,
c'est un italien, oui.
Tu l'as vu.
Bon, et là, l'arbitre, évidemment, sort un carton.
Non, et le pire, c'est l'attitude qu'il a, il rentre, et vis-à-vis de Loris, il fait pas l'effort sur le premier remplacement, le capitaine lui dit un mot, il dit « oh, il lui a pas dit « va fanculo ».
Il y a quand même un autre problème, c'est que ces jeunes-là, à 20 ans, 21 ans, 22 ans, gagnant 500 000 euros par mois, je vous assure que moi à 500 000 euros par mois, je pète les plombs.
Mais c'est la même chose dans tous les pays, ça.
Je respecte plus personne.
Donc c'est la même chose que les Allemands, que les Espagnols, les Anglais soient un peu plus la tête sur les épaules, ils gagnent autant d'argent.
Ce sont les dérives.
Plus d'argent.
Oui, plus d'argent.
Ce sont les dérives du système du football professionnel. Voilà.
Bien sûr, tout à fait.
Ils
sont victimes du fait qu'à un moment, même dans le système fédéral, on a tellement envie de les avoir et puis qu'ils te fassent gagner des matchs qu'on leur laisse tout passer.
Je vous signale quand même que Aimé Jacquet avait viré David Ginola et Eric Cantona parce que c'était des individus qui tuaient le groupe. C'était en tout cas l'analyse d'Aimé Jacquet. Ouais. Qu'il avait fait preuve.
Ginola, c'était pas que celle d'Aimé Jacquet.
On était quatre avec Aimé Jacquet et qui m'a dit la vérité.
Pourquoi il a viré
Il les a virés parce qu'il avait voulu mettre Cantona au milieu de terrain. C'était la progression de Zidane. Kanto voulait aller au milieu de terrain. Il a dit tu joues devant ou tu ne joues pas à Zidane.
Il les a virés pour laisser l'avènement de Zidane et Djorkaeff.
Voilà. Mais c'est pas pareil.
Mais parce que leur personnalité ne se fondait pas dans un collectif. Vous pouvez
comme remplaçant.
Voilà.
Ils n'allaient pas garder.
Ginola n'était pas mis par le groupe, notamment par Didier Deschamps, le capitaine.
Eugène dit la même chose que moi. Parce que Cantona ne jouait pas à la place qu'il souhaitait. Cantona n'était pas.
Mais la discussion d'ailleurs entre Jacques et Cantona a été parfaite.
En tout cas, vous conviendrez que c'était des joueurs.
Cantona a dit je ne joue pas.
Pascal, vous conviendrez que c'était des joueurs qui avaient un très grand talent et qui ont été sacrifiés au nom du collectif.
Mais la dernière fois, Domenech en a laissé de côté.
Il a laissé Benzema et Nasri.
Voilà. Et puis après, d'autres ont été là et c'était la même pagaille. Donc là, Blanc lui reproche de ne pas en avoir laissé de côté.
Ceux qui étaient laissés de côté. Votre faiblesse avec des sanctions post-Nice-Na qui n'ont pas existé, c'est tout notre discours.
C'est tout le système. Ce ne sont pas que ces joueurs-là. Tu voulais mettre Nasri dans un avion, mais il y en aurait eu un autre.
Ce qui est assez marrant, c'est quand on constate effectivement ceux qui ont posé problème, s'il faut les signaler comme ça, pendant cet Euro, il y a qui ? Il y a Nasri, il n'était pas à Naïsna. Il y a Ménès, il n'était pas à Naïsna. Il y a Ben Arfa, il n'était pas à Naïsna.
Voilà. C'est bien ça qui est grave.
Ce que je ne comprends pas dans votre discours, c'est lorsque Nasri fait l'incident qu'il fait avec France-Angleterre. Pourquoi ne souhaitez-vous pas de sanctions ?
Ne sanctions que pour virer le joueur ?
Pourquoi ?
Écoutez, parce qu'il fait un match remarquable contre l'Angleterre. Il marque le but. Non, mais vous ne le direz pas.
Mais pourquoi ?
Donc on lui cède ses caprices.
Non, c'est pas un caprice.
On va aller plus loin.
Et pareil, et je pose la même question pour Ben Arfa.
Mais je vais te le dire. Ben Arfa, moi je pense qu'il devait être sanctionné. Parce que Ben Arfa, dans un vestiaire, s'attaquant à son entraîneur, c'est terminé.
Mais pourquoi ne l'est-il pas ?
Parce que je t'ai dit, Blanc fait preuve de faiblesse.
Moi, je pense que
c'est fait exactement la même chose que Nasri, parce que vous n'allez pas me dire que c'est parce que quelqu'un a mis un main dans sa bouche.
Ça change tout.
Il a fait 42 000 fois Balotelli. Et à Citizen et dans l'équipe d'Italie, qu'est-ce que tu me racontes ?
Il a fait.
là pendant l'Euro.
Bon, on lui a mis sur la bouche.
Et la grosse différence, c'est qu'il a un pote à lui qui vient lui dire fais pas ça, c'est une bêtise, c'est une connerie. Alors que Nasri, quand il le fait, les autres disent bien fait ce que tu leur as dit.
Il va trop vite pour le faire. Ils s'attendent pas à cette réaction-là. Simplement, le gars qui est à côté de Balotelli,
il s'attend pas à ce qu'il marque surtout, c'est ça.
Ils étaient tous autour de lui, Hervé, quand il l'a fait. Après, il s'échappe et il le fait.
La différence, c'est que Balotelli, il y a un type autour de lui, c'est quasiment un garde du corps. Il dit à tout moment, il peut péter un boulon. Donc là, il lui met la main sur la bouche. Alors si le fait d'avoir la main extérieure sur sa bouche, ça change la sanction que peut prendre un entraîneur sur ce qu'a fait un joueur,
ça montre qu'il y a une solidarité dans le groupe italien et qu'il y en a qui ont la tête sur les épaules pour lui dire arrête, tu fais une bêtise.
Il y a des gens qui pensent que Nasri avait raison aussi.
Alors que dans le groupe France, c'est pas comme ça.
Non, mais là où vous vous trompez, c'est de stigmatiser un joueur. Ça ne sert à rien. Il y en aurait eu un autre, et puis en 2014, il y en aura encore deux autres, et trois temps qu'on ne changera pas les mentalités. C'est foutu.
Il faut quand même stigmatiser.
Mais oui, mais tant.
Tout le monde n'est pas comme
ça. Tu vas faire venir un joueur en punition, en exemple. C'est pas ça. C'est les mentalités qui doivent changer.
Jusqu'à qu'ils aient été
10, 20, 50, l'équipe de France.
Non, mais Blanc a eu quand même. Écoutez-moi.
De toute façon, il n'y en a plus d'équipe de France. On vous rassure. Ça fait. On vient de traverser 2002, c'était minable. 2004, c'était minable. 2006, c'était très bien. 2008, c'était minable. 2010, c'était minable. Et 2012, c'est minable.
Il y en a une autre.
Donc voilà la décennie qu'on vient de vivre avec l'équipe de France.
Oui, mais
on a
voilà.
Eu, je m'amusais tout à l'heure avec Eugène, sur la décennie depuis 2002, il y a eu trois matchs de l'équipe de France, France-Espagne, France-Portugal et
France-Italie.
Et France-Italie.
Et France-Brésil. Le France-Brésil aussi de la Coupe du Monde est énorme.
Voilà, avec Zidane qui est énorme. De la Coupe du
Même
monde.
Le France-Italie.
2008, 2010, 2012, minable, vous en conviendrez. Vous conviendrez de ça, les trois phases finales.
Mmh. Ah oui.
Donc, et 2002...
Non, 2006, bien.
C'est ce que je dis.
Italie extraordinaire en éliminatoire. Que...
Moi j'ai bien aimé France-Roumanie en 2008.
Je vous parle des phases finales, Gilles.
Finale, oui.
Bah, les phases finales, c'est ce qu'on retient. C'est pas les éliminatoires, vous en conviendrez.
Les matchs amicaux. Même en match éliminatoire, j'ai pas de souvenir transcendant.
Donc on est aujourd'hui dans un rapport à nos footballeurs de divorce très profond, où l'opinion publique.
La même magie de l'équipe de France fonctionne à chaque compétition. Le 15 août contre l'Uruguay, ça va repartir, mais bien sûr.
Gilles, pardonnez-moi, écoutez les gens dans la rue, vous vous trompez. Les gens ne les aiment pas. Ces jeunes joueurs.
On n'aime pas ces jeunes joueurs, mais on aime l'équipe de France.
Non, mais c'était
éternel.
Et
on aime l'équipe de France.
Mais alors, attendez, le président Fernand Sastre, qui était un excellent président, peu autour de la table le connaissait, mais enfin, c'était un
le
très bon
président.
Voilà,
le dernier grand président.
Voilà, le dernier grand président. Disait toujours que le football est un éternel recommencement, que les mêmes problèmes se posent, et que quand on est dans le football, on y est pour toujours. Il m'avait dit ça à propos de, je sais plus, une affaire de... Et c'est la vérité. Vous allez avoir le même problème pour l'équipe du Brésil, pour l'équipe qui ira au Brésil.
Si on y va.
Si Blanc est entraîneur ou s'il ne l'est pas. Alors moi, je veux bien que vous renvoyiez complètement Laurent Blanc à ses chères études.
Je suis pas pour. Hein.
Et que vous envoyez, joueurs de cette équipe de France.
En plus, il y a une chose, Laurent Blanc, c'est que là, je pense qu'il a appris s'il décide de rester. Hein, mais il a appris.
Oui,
c'est-à-dire qu'une phase finale comme ça, lui aussi, il a manque d'expérience. C'est un jeune entraîneur, il ne faut jamais l'oublier. Donc il s'est retrouvé face à des comportements qu'il n'a pas su gérer. Mais comme c'est quelqu'un, je pense, d'assez intelligent pour comprendre ça, la prochaine fois, il agira différemment.
Et
c'est ce qu'on appelle l'expérience pour les entraîneurs
absolument.
Aussi.
Absolument, oui. Ça sera même un...
Non, mais ce qui est marrant, c'est que depuis tout à l'heure, on débat des faillites de Blanc à 7 euros. Et grosso modo, je pense qu'on est majoritairement pour que Blanc reste à la tête de l'équipe de France.
Oui, parce que pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de solution alternative.
Bah si, il y a Deschamps qui attend que ça.
Mais il y a plein d'entraîneurs.
Il
y a même des entraîneurs étrangers. Moi, je serais pour qu'on fasse une Kovacs quand le foot français allait très très mal. Mais M. Kovacs, ça fait beaucoup de bien.
Mais
bien sûr. Mais il faut qu'on sorte de ce football. Moi, il y a une chose que j'ai remarqué. L'Espagne, l'Allemagne sont capables de changer de tactique 2-3 fois dans le match. Nous, c'est toujours la même. C'est toujours la même. C'est un football monocorde. Alors parfois il y a des éclairs parce qu'il y a un Benzema, il y a un Ribéry, il y a un Menez qui sort un truc. Mais c'est fini ce football. Il faut bouger maintenant. C'est le football de rupture. Il faut mettre le chaos dans la défense adverse.
Cela dit, Machno, cela dit, et les autres, répondez-moi un peu. Si on vire et Nasri, et Benzema, et Ben Arfa, et Menez, qui mettons à la place?
C'est le problème, c'est ça, le problème.
Il n'y a pas d'équipe derrière.
C'est le désert français derrière. Et on vire Blanc aussi pendant que vous y êtes. Tout le monde et on arrête de jouer pendant 2 ans.
Un joueur comme Mavuba, il aurait pu venir en équipe de France. Un joueur comme Valbuena, il aurait pu jouer.
Moi, j'aimerais que Giroud ait sa chance aussi. Quand même.
Il faut quand même dire au moment de la liste. Alors, c'est vrai, Mavuba, je pense qu'il méritait sa place. Ah, oui. Au moment de la liste, on ne peut pas dire qu'il y ait des purs scandales, des oublis absolus. C'est-à-dire qu'ils ont fait à peu près avec les joueurs qui avaient.
Non, mais il y a un risque et quand on a vu cette liste, on s'est dit, prends un risque. Il fait le choix du talent, etc. Est-ce qu'il va réussir à gérer tout le monde
défense. Et en défense, surpris de Laurent Blanc, je le répète, durant cet Euro, c'est sa faiblesse. Là, j'ai découvert quelque chose que je n'imaginais pas chez lui.
Tu veux le virer si tu vas au bout de ce raisonnement. Les gens faibles, tu veux pas qu'ils restent en place.
En tout cas, j'ai découvert chez lui ce que je n'imaginais pas, c'est de la faiblesse. C'est quelqu'un qui a joué les ponts
pilates
voilà, sur certaines affaires. Et effectivement, faut jamais être faible.
Écoutez, il est minuit hein, sur RTL. Minuit moins 4 secondes.